courrier de lecture. Lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour. Et ce, en écoutant tranquillement la lecture d'extraits lus par Hervé et Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière puisque nous ne sommes pas dans le studio habituel de Studio Zef, mais nous enregistrons en public. Et quel public ? Le public est venu nombreux. Nous sommes installés plutôt confortablement au grenier de Vineuil, dans une petite salle des greniers de Vineuil. Cette magnifique demeure qui est située le long de la route de Chambord et qui appartient à une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc nous aurons l'occasion pendant l'émission de reparler des greniers de Vineuil, mais on va commencer directement par la lecture. Je me tourne vers mes deux acolytes habituels. Quel est le roman que vous allez nous lire aujourd'hui ?
Eh bien, je vais prendre la parole pour dire que je ne vais pas prendre la parole pour lire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est Hervé qui va lire.
Voilà, on s'est réparti les tâches. C'est Catherine qui répond à tes questions et c'est Hervé qui lit.
Enfin, bon, je réponds peut-être.
Pourquoi pas ?
Donc, Hervé va nous lire des extraits du dernier roman de Sandrine Collette qui s'appelle « On était des loups ». D'ailleurs, on peut déjà dire que pour ce roman, Sandrine Collette a reçu deux prix. Le prix Renaudot des lycéens et le prix Jean Giono.
Voilà. Rien que ça.
Rien que ça, déjà. Ça doit être son... Peut-être j'ai le droit à l'erreur, j'espère, parce que je pense que c'est son 11e roman.
On n'a pas le droit à l'erreur.
Alors, je ne vous dis pas quel roman c'est. Non, on n'en parle plus, mais elle en a écrit pas mal.
Voilà, elle en a écrit pas mal, surtout des policiers.
Elle a écrit son premier roman en 2013. Je dis ça parce que dans le public, il y a des fervents lecteurs du Robles. Voilà.
Ah oui.
Et puis, elle a été reconnue comme une maîtresse, je ne sais pas si ça se dit, du thriller français. Voilà.
D'accord.
Alors là, on n'est pas dans un polar ou thriller, mais il y a quand même une atmosphère tendue.
Tendue, on peut le dire, voilà, comme ça, oui.
Tendue. Alors voilà, j'ai digressé, comme on dit. Alors, le roman. Eh bien, le roman, je ne veux pas dire où il se situe, parce que l'auteur...
On a du mal à imaginer.
Voilà.
Hein,
oui. Alors, elle vit dans le Morvan, elle élève des chevaux, donc elle a l'habitude de la nature, mais la nature que l'on découvre à travers son roman, c'est plutôt d'immenses espaces montagneux, avec des forêts, des ours.
J'ai imaginé, moi, le Grand Nord canadien, voilà, ou Alaska,
un pays de ce genre. On ne pense pas vraiment à la France,
pas
spontanément.
La France, non.
Voilà.
C'est peut-être un pays imaginé, tout simplement.
Il y a des ours, il y a des loups, il y a tout ça. Mais il y a très peu d'hommes, enfin très peu d'humains. En tout cas, c'est un territoire immense. Et le héros, qui est le narrateur de cette histoire, s'appelle Liam. Prénom peu courant chez nous.
Oui, pas très français.
Pas très français.
Pas très français, mais au moins, justement, il y a un côté exotique. Enfin, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le livre. Hervé ?
C'est la nuit. Je regarde l'enfant qui dort, un tout petit enfant. Il ne sait rien du monde. Il ne sait rien faire. Un enfant, ce n'est pas fait pour la vie. Cette vie-là, je veux dire, qui est immense et brutale devant lui, devant nous. La vie qui ? L'enfant a des cheveux blonds, presque blancs, les mêmes que sa mère, ébouriffés par le sommeil. S'il avait les yeux ouverts, ses yeux d'un éclat bleuté, transparent, je penserais encore une fois à mon père, son grand-père, qui avait lui aussi ce regard-là, avec ce ciel à l'intérieur, une ondulation comme les grands lacs de montagne. Mais l'enfant dort, et ses paupières sont baissées. Il a des petits yeux, et je me dis vraiment, tout est petit en lui. Ça grandira, bien sûr. Pour l'instant, le bleu de ses yeux ressemble à une tache de myrtille sauvage, celle qui couvre les sous-bois au début de l'été et que je rapporte à Ava pour qu'elle les mette en bocaux. L'existence d'Ava, ce n'est pas compliqué, c'est le gosse et la nourriture. La nourriture, c'est ce qui fait que tu ne vas pas crever l'hiver dans les montagnes, lorsque même le gibier le plus sauvage se planque à cause du froid. Les seules bestioles qui sortent, elles sont blanches comme la neige. C'est difficile de les repérer et quand tu les vois, elles t'ont déjà calculé. Le temps d'épauler, elles ont disparu. Alors chez nous, il vaut mieux avoir des réserves et pas qu'un peu. Et le vieux Henri qui a l'avion, celui qui habite à 3-4 heures de marche vers l'est, le vieux, il a dit la première année, il a fini par bouffer les racines pour le passer ce foutu hiver. Après, il savait. Moi, j'ai de la chance, je suis un bon chasseur, un très bon même. C'est ce qu'ils disent tous ici. Mais quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Quand la viande dort, elle dort. Alors l'été, l'automne, je crapahute dans la montagne, là où les cerfs, les lièvres et toutes les bêtes vont, et je ramène ce que je peux, les peaux ou les fourrures parce que je les vends et qu'avec l'argent, j'achète ce qu'il faut pour Ava et pour le môme, les provisions pour tenir la mauvaise saison, celle qui dure 4 mois. Ce n'est pas que je reste à ne rien faire de ma peau ces 4 mois-là, sûrement pas. Et puis, ça me rendrait fou d'être à la maison et de ne pas bouger. Non. L'hiver, j'en profite pour réparer le toit ou une porte ou un auvent. Il y a toujours 1000 petites corvées qui attendent. Les enclos aussi, je les bricole. C'est important, les enclos. Pas tellement celui des poules, encore que. Mais celui des chevaux, parce que les chevaux, c'est toute ma vie. Si je ne les avais pas, mes 2 gros, je pourrais boucler ma valise et filer de cet endroit. Car ici, sans chevaux, c'est comme sans armes, on ne tient pas longtemps. Leur enclos, j'y ai mis une batterie solaire à cause de toutes les saloperies de prédateurs qui viendraient me les écorcher la nuit, et ça les protège. C'est pareil pour les chèvres, même si les chèvres avalent et rentrent dans la bergerie le soir, elles préfèrent. C'est vrai qu'un cheval, ça se défendrait le temps que j'arrive. Une chèvre, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas une vie pour les chèvres non plus. Et à vrai dire ici, c'est pas une vie pour pas grand monde. Il y a quelques années de ça, les jeunes sont venus s'installer dans le coin. C'était 2 ou 3 couples, des rêveurs, des écolos, des branleurs, quoi. Ils sont venus sans rien, avec juste leur bite et leur couteau. Ça faisait rire Henri de les voir construire leur tipi à la con et bêcher leurs petits potagers qui ont pris le gel en pleine gueule à la mi-août. Parce que ça arrive qu'ici, à la mi-août, ils gèlent déjà, oui. Voilà, ils n'avaient pas de chevaux et pas d'armes à feu. Ils n'étaient pas des sauvages, ils disaient. Et ils disaient ça rapport à nous. Et ça me donne le sourire d'y penser. Il faut en profiter, le sourire. Je ne vais pas en avoir de trop ces temps-ci, je crois bien. Du coup, les jeunes se sont retrouvés en septembre sous la neige avec leur garde-manger à moitié vide, sans moyen de les remplir et sans moyen de transport non plus, vu que la motoneige qu'ils avaient prévue ne passait pas dans le quart des chemins et qu'ils étaient à pied. De toute façon, on a rarement vu une motoneige gagner sur un lapin et il y a fort à parier qu'à la course avec leur couteau de ville, les gars auraient eu du mal à le baiser, le lapin. Enfin, ils n'étaient pas prêts. Ils avaient lu des livres et regardé des films, et ils s'étaient dit que ce serait formidable de vivre en pleine nature dans un coin perdu comme celui-là. Mais ils avaient sous-estimé plein de choses, et notamment le fait que la nature n'était pas forcément heureuse de les voir arriver, ou du moins qu'elle ne ferait pas lourd pour les aider. Bref, ils avaient oublié que la nature, c'est marche ou crève. C'est pas le soleil, les petits oiseaux et les gens mignons autour. Il faut le savoir quand on vient ici, sinon ça cogne la tête un jour pas loin. Les jeunes sont partis au milieu de l'hiver. C'est Henri qui les a reconduits à la ville en quelques tours d'avion, une semaine où il faisait beau. Ils ont dit qu'ils avaient compris, qu'ils allaient se préparer cette fois qu'ils reviendraient à la fin du printemps gonflés à bloc. Ils ne sont jamais revenus. Leur camp est abandonné depuis des années, peut-être 7 ou 8, et les ours ont tous saccagé à l'extérieur et griffé les portes et les fenêtres des cabanes pour essayer d'entrer. Les tipis, je n'en parle pas. Les tipis, on ne voit même plus qu'ils ont existé. À l'intérieur des cabanes, ça ne doit pas être mieux. Des maisons pas entretenues, pas chauffées, ça ne dure pas. Mais ce ne sont pas mes affaires. Moi, des affaires, j'en ai suffisamment pour m'occuper et me noyer la tête. C'est Ava qui a eu un drôle de regard quand les jeunes ont décampé, comme si elle les avait enviés ou quelque chose de cet ordre. Je ne crois pas qu'elle était triste de les voir quitter la région. On ne se connaissait pas trop, ça n'était pas ça. C'était vraiment l'idée qu'elle s'en faisait. Je me souviens qu'à cette époque, je me suis demandé si elle l'aimait, cette vie. Elle ne l'avait pas trop choisie. C'est moi qu'elle avait choisie. Et elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y avait en dessous, même si je l'avais prévenue. Je lui avais dit que je vivais comme une bête au milieu de la montagne. Elle, ça l'avait fait rire. Elle croyait que je plaisantais. C'était un jour où j'étais à la ville pour ravitailler avec Henri. Il me fallait un paquet de bidons d'essence pour le groupe électrogène et mes machines. Henri m'emmenait 4 fois par an et d'autres fois quand il était seul et qu'il avait de la place, il m'en rapportait par-ci par-là, ça ou des provisions. On avait décidé de manger un morceau avant de retourner l'après-midi. Je voulais revenir le soir, je n'aimais pas laisser ma cabane sans personne. Ava, c'était juste une fille qui était là. Elle déjeunait avec une amie dans le même boui-boui et on a commencé à parler. Elle était étudiante et comme il y a des vacances tout le temps quand on est étudiant, elle se baladait un peu partout dans le pays. Elle ne savait pas trop quoi faire de sa vie. C'est drôle parce que j'avais 22 ans et pour moi, ça avait toujours été clair. Je voulais vivre au milieu de nulle part et chasser et vendre mes peaux et voir le soleil se lever chaque matin sur la montagne. J'étais là-bas depuis 2 ans. Ava, ça lui a tellement plu ce que je lui racontais qu'elle est rentrée avec nous. On s'est serré dans l'avion. Henri n'était pas trop content pour des raisons de sécurité. Enfin, il a fini par dire oui, mais j'ai bien vu qu'il faisait la gueule. Il n'a pas moufté du trajet et j'ai montré tous les paysages à Ava depuis le haut où on se trouvait. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas vraiment choisi cette vie. Elle m'a suivi, c'est tout. On s'aimait comme des fous et ça a aidé pour pas mal de choses. On s'aime toujours, même si on a moins à se dire. On s'est tout raconté depuis longtemps et les journées se ressemblent trop pour qu'il y ait un truc nouveau à partager. Il y a de la fatigue aussi. On a pris des années, surtout moi, à pister le gibier. Souvent, je pars plusieurs jours avec les gros et quand je rentre, je sens bien que j'en ai davantage dans les pattes qu'avant. Je ne suis pas vieux, mais ça secoue quand même cette existence-là. Je ne dis pas que ça me convient, pas simplement, ça secoue. Et Ava, elle ne pensait peut-être pas que je serais absent autant. Enfin, ce que j'en dis. Peut-être que la nourriture et la maison, c'était pas assez pour l'occuper. En tout cas, quand les jeunes sont partis, elle a commencé à parler de cet enfant qu'on pourrait avoir, elle et moi. Et j'ai demandé si elle ne voulait pas plutôt un chien pour la compagnie. Je me souviens, ça a été une année un peu tendue. Un enfant, je ne voyais pas trop, ça me paraissait compliqué ici, avec la vie qu'on menait. Mais si Ava en voulait un, j'étais d'accord. Seulement, ça ne marchait pas. Elle me reprochait de n'être jamais là, toujours dans la montagne avec les gros. C'est sûr que ça ne pouvait pas marcher, notre affaire. Et moi, ça m'arrangeait bien. Quand je pensais aux 4 heures de cheval pour aller chez Henri et puis une bonne heure d'avion avant la ville où il y avait le premier hôpital, c'est ça qui me faisait peur. On ne fait pas un gosse dans un endroit comme ça. Et si c'était l'hiver, même avec les chevaux, on n'était pas sûr d'arriver chez Henri. S'il y avait une urgence. Mais les urgences ici, ça n'existe pas. Soit on est vivant, soit on est mort. Il n'y a pas beaucoup d'entre deux. On est seul au monde, quoi. On croit qu'on a quelques voisins autour et qu'on peut compter dessus. Et c'était vrai, et pourtant ça ne change rien au fait qu'en cas de situation grave, il n'y a pas de solution. Je le savais, et Ava le savait. Alors, est-ce qu'on allait faire naître un enfant là-dedans ? Je ne posais la question parce que ça ne serait pas simple, ni pendant la grossesse, ni après. Enfin, ce gosse, il allait être là, et il n'avait rien demandé. Peut-être qu'il n'aimerait pas la montagne et les forêts de sapins et les cris des oiseaux la nuit. Ça représenterait quoi pour lui cet univers gigantesque et sauvage et cette solitude qu'il n'aurait pas choisie ? Est-ce qu'on pouvait l'emmener dans cette aventure et lui imposer nos décisions à la con ? Si ça se trouve, c'est ce qu'il nous dirait quand il aurait 12 ou 14 ans. Et si ça se trouve, il serait mort avant parce qu'il serait dangereux cet endroit. Ava me regardait et secouait la tête. Elle avait compris. Ce gosse, je n'en voulais pas vraiment. « Écoute, je disais, il ferait quoi ? Il m'imiterait quand je forgerais un couteau, ou quand je dépècerais une bête, ou que je tannerais une peau ? Il faudrait des années avant qu'il en soit capable, et tout ce temps que nous devrions nous en occuper, plus que de nous-mêmes. C'était un peu tout ça qui me rongeait, et aussi qu'il serait obligé de vivre dans ce microcosme que nous lui avions préparé. » Un univers où l'on vit par paquets de trois ou quatre, où l'on croise de loin en loin quelques êtres de la même trempe. Et puis, c'est tout, et c'est déjà bien assez quand il faut poser la ligne de trappe et que les espaces se superposent dans des grincements de dents. Là-dedans, des enfants naissaient qui ne servaient à rien, c'était ce que je pensais. Mais Ava, elle avait des arguments et on a fini par le faire, ce gosse. On l'a fait, alors que je m'étais mis dans la tête qu'il ne tiendrait pas. Il devait se cacher bien loin au fond de mes pas, enfin, de ce que j'avais pour les fabriquer. Un monde comme ça, il n'avait pas forcément envie de rentrer dedans. Et quand j'ai cru que c'était gagné, Ava m'a dit soudain qu'elle était enceinte. Voilà, c'était fait.
I got on the phone and called a girl, said me need dangling curly pearls were na-na-na-na.
Na-na-na-na.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na.
En effet, ça sent un peu la nature, ça sent le sauvage.
Oui, très sauvage même. Le narrateur aussi. Il le dit, je vis comme une bête. À ce moment-là, on est tout au début du roman. C'est en fait une scène d'exposition. On présente les personnages. Enfin, les personnages. Je vais tout de suite vous donner une information capitale, mais même la quatrième de couverture la donne. La femme de Liam, Ava, va mourir, tuée par un ours, et les hommes vont se retrouver seuls. Les hommes, c'est le chasseur
Liam.
Et l'enfant. Et ils vont se retrouver seuls, Et c'est là la vraie histoire qui commence, avec ce questionnement immense qui envahit Liam. Mais que faire de cet enfant de 5 ans dans ce monde sauvage ?
Questionnement, en effet. Parce que, oui, déjà qu'un enfant pas trop désiré tout seul, c'est compliqué à élever sous nos contrées. Alors, dans un domaine sauvage comme ça, j'imagine.
Ça ne sera pas facile.
Occidentaux civilisés, on ne se pose pas trop cette question. Hein ?
Pas tout à fait la même, oui.
Alors, on va continuer la lecture, mais avant, je rappelle que nous sommes au Grenier de Vineuil et j'ai à côté de moi Coralie, qui est salariée au Grenier de Vineuil. C'est bien ça, Coralie ?
Tout à fait. Bonjour à vous trois. Je suis salariée au Grenier, je suis chargée de développement et responsable communication.
Quel titre !
Wow.
Et les Greniers de Vineuil, ben on en entend parler pour ses concerts, ses animations. Et je crois savoir que c'est une SIC, une SCIC. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Ce qui veut dire
Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Un bien grand mot pour dire qu'en fait, les Greniers de Vineuil est un projet avant tout collaboratif. À l'origine du projet, en fait, c'est un collectif d'artisans, d'artistes et de producteurs locaux, ainsi que de citoyens de la ville de Vineuil, qui se sont regroupés en se disant qu'ils avaient envie d'inventer un système un peu, pas nouveau, mais de réinventer un peu les modes de consommation de nos sociétés un peu actuelles. Et cette bâtisse dans laquelle nous sommes, qui est une bâtisse du XVIe siècle, a été en vente, et c'est le début du projet, en fait. Ils ont acheté la bâtisse en 2018 et ont ouvert les Greniers de Vineuil en 2019, fin 2019. Et donc, qu'est-ce que c'est une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif ? En fait, c'est les Greniers de Vineuil rassemblent aujourd'hui plus de 300 sociétaires, des citoyens, entreprises, associations et deux collectivités, la mairie de Vineuil et la communauté d'agglomération de Blois.
300 sociétaires, je suis impressionné.
Plus de 300 sociétaires. Mal,
hein. Je te rappelle que nous en sommes, Hervé.
Ah oui, c'est vrai.
Non, oui, mais il y en a 298 de plus.
Il y en a 298 autres.
Voilà, et les Greniers de Vineuil sont présidés par un conseil coopératif, donc avec un président élu et neuf conseillers du président, dont Hervé fait encore partie. Oh, Hervé,
voilà.
Tu es partout.
Il est partout.
Et deux commissions, une commission galerie, puisqu'on a une galerie d'art au Grenier de Vineuil, et une commission événement qui a la charge de choisir la programmation artistique et culturelle des greniers tous les ans. Voilà, et on est trois salariés maintenant au Grenier de Vineuil. La directrice des greniers, Elsa, qui est en alternance chez nous, et moi-même, voilà.
Très bien, on reviendra sur les animations tout à l'heure. On va reprendre le fil de notre roman. Et donc, je me tourne vers Catherine et vers Hervé. C'est quoi la suite, maintenant que Ava, la maman du jeune Haru, est morte ?
Eh oui, la vie est dégueulasse. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Liam, le narrateur. Mais mettons-nous à sa place. Il a toujours vécu comme une bête sauvage, à traquer les animaux sauvages pour simplement espérer survivre. Et voilà qu'il se retrouve seul dans sa maison en plein bois à devoir élever un enfant de 5 ans. Alors évidemment, ça va pas se passer tout seul. La vie est vraiment dégueulasse.
Les accidents, j'en ai vu, j'en ai vécu, je sais les aborder. Les accidents, ça arrive toujours. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre et ça ne sert à rien de vouloir les éviter. Il faut apprendre à faire avec. On dit qu'il vaut mieux être à deux dans ce cas. Moi, je pense, ça dépend qui est le deuxième. Parce qu'un môme comme le môme, il peut que dalle pour toi. Et en plus, une partie de ton énergie va servir à le protéger, lui. Et sur ce coup, tu auras tout perdu. À deux, ça va si c'est Henri ou Mike. Enfin, des gars de la montagne. C'est sûr, ils t'aideront. Le problème, c'est qu'avec moi, c'est pas Henri ou Mike. C'est le gosse. C'est la tragédie de la fragilité. Ici, on ne peut pas se permettre d'être fragile. Quand je regarde le peu de monde qui vit autour de moi, ce n'est pas des petites natures, et les enfants, ça met trop de temps à devenir forts, c'est aussi simple que ça. Alors encore une fois, je pense qu'Aru et moi, on serait plus heureux si on n'était pas ensemble. Je veux le dire, je serais heureux s'il était heureux ailleurs. Seulement, je n'ai pas réussi à le caser quelque part. Et c'est ma faille qu'il met au jour en étant là. Et c'est pour ça que je ne le supporte pas. Ces jours qu'on chevauche, lui et moi, dans le silence, c'est un silence que je n'aime pas. C'est très différent le calme quand on est seul et quand on a une relation apaisée au monde et le calme quand on fait la gueule. Bien sûr que ça fait partie de la vie et qu'il y a forcément des disputes. Par exemple, Ava et moi, pendant toutes ces années, des mutités pleines de colère, bien sûr que oui, mais c'était juste des disputes. Ce n'était pas le signe qu'on se sentait mal tout au fond de nous. Aujourd'hui, c'est moins de la fureur que du désespoir et c'est beaucoup plus douloureux. Et le pire, c'est que je ne vois pas comment ça changerait. Derrière moi, Aru dit quelque chose. C'est suffisamment rare pour que je me retourne, et c'est vrai que je ne le regarde pas beaucoup, et quand je le regarde, je pense à Ava, à la vie qu'on n'aura pas, qu'on n'aura plus, et je n'y arrive pas. J'ai arrêté Dark, mon cheval, j'attends le môme, il allait très tiré. Il murmure quelques mots que je n'entends pas et je lui dis « J'entends pas !» Il répète plus fort, il a le nez baissé, il articule « J'ai mal au ventre !» « Je ne vois pas le problème, si t'as mal au ventre, tu descends de cheval et tu y vas, c'est pas compliqué !» Lui, il n'a pas osé demander et maintenant c'est trop tard. Et il a couru de l'autre côté d'un arbre, là où il dit d'une toute petite voix « J'ai fait dans mon pantalon !» Il ressort d'un pas, il est devant moi cul nu et il a un grand regard effrayé. Il le sait que ce n'est pas bien, que c'est un truc de bébé à 5 ans passé, on ne chie pas dans son froc. Je dis « Putain, c'est pas vrai !» et il chuchote encore plus bas « Si, c'est vrai !» Je reste un moment sur le dos du cheval comme hébété et il attend. Mais il attend quoi ? Alors je gronde « Tu crois pas que je vais te torcher ?» Tu prends tes vêtements de rechange, ceux qui sont pas secs, et les autres, tu les laisses ici. Tant pis, moi je nettoie pas ta merde, c'est clair ? Le môme ne répond pas, et ce que je vois, c'est l'effort qu'il fait. Et je dis, tu chiales pas non plus, tu vas te rincer dans le ruisseau, allez ! Et il enlève son pantalon et son caleçon lentement, et il y va. Je ne peux pas dire que ça me rappelle... Enfin, si je peux dire ça me déborde, c'est les mauvais souvenirs qui reviennent. On a sans doute tous chié sur nous un jour ou l'autre, quelle qu'en soit la raison, la digestion, une bactérie, la trouille, ou un effort mal maîtrisé. Bref, voilà, ça nous est arrivé, c'est pas ça le problème. Moi, j'avais peut-être l'âge d'Aru quand on a fait une orgie de murs avec les frères et sœurs. Du moins, j'ai toujours pensé que c'était ça. Le soir, je n'ai pas eu le temps de rien et c'était parti. On était avec le père et la mère cuvait sur le canapé. Pour une fois, c'était elle. Le père m'a regardé d'un drôle d'air. Je savais à quoi il pensait. Il pensait aux clébards quand ils sont petits, avant qu'ils apprennent qu'on ne fait pas ses besoins n'importe où. Alors, comme je n'étais ni plus ni moins qu'un chiot, il m'a déshabillé. Il m'a attrapé par le cou et il m'a mis le nez dedans. C'est ça l'image qui me revient en voyant Aru avec son pantalon sur les talons et je sens encore l'odeur dans mes narines, j'ai pas oublié. Il ne s'est rien passé de plus. Il ne s'est jamais rien passé de plus. Nous, notre enfance, c'était à la dure, c'est tout. Mais ça laisse des traces. La merde, je ne veux pas y toucher. J'ai eu mon lot, même si plus tard il a fallu nettoyer celle du père quand il était ivre mort et qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. C'est la mère qui nous obligeait. Elle disait que c'était pas son boulot. Je ne crois pas que c'était le nôtre non plus. Seulement, on n'avait pas le choix. C'était elle qui tenait la trique. Après un moment qui me semble très long, Aru revient tête basse. Il a enfilé les vêtements humides de la veille et il a essayé de laver les autres qu'il accroche à la sacoche de balle pour que ça sèche. Je le hisse par les épaules sur le cheval. Et on repart. Je me sens un peu minable. Je ne suis pas meilleur que mon père, ce salaud. C'est avec cette brutalité-là qu'on fait des générations de tarés qui se suivent sans s'améliorer. Et je me demande si Aru, plus tard, sera aussi dur que moi et que mon père. et mon grand-père pour le souvenir que j'en ai. S'il ne sait pas d'autre façon d'être existant, bien sûr qu'il reproduira le seul modèle qu'il ait eu, et ce modèle, c'est moi, et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose qu'il puisse lui arriver. Le souci, c'est que je n'ai pas les mots. Je ne suis pas capable de parler à un enfant, j'ignore comment on fait. J'ai beau chercher ce que j'aurais aimé qu'on me dise à son âge, le jour où la même chose m'est arrivée, je n'ai pas la réponse. Peut-être que j'aurais simplement voulu qu'on me dise qu'on m'aimait, même si je m'étais chié dessus. Et c'était impossible vu qu'on ne m'aimait déjà pas avant. Alors après, entre Haru et moi, il y a un problème pareil. C'est comme si on demandait à un aveugle de décrire un oiseau qui chante à un sourd. Entre nous, il y a un gouffre et aucun pont ne pourra jamais en relier les deux côtés. C'est dégueulasse, mais la vie est dégueulasse. Disons assez pour que je passe à côté d'un môme qui pleure sans que ça ne me fasse rien. Et ce n'est pas vrai que ça me fait rien. C'est même ce que j'ai ressenti de plus terrible dans mon existence, un gosse qui pleure. Parce que le monde est injuste, et c'est moi qui le rends injuste, et je sens le chancellement à l'intérieur. C'est trop facile pour un adulte de faire chialer un môme, c'est tirer un lièvre avec un fusil. Tout explose, il ne reste plus rien. Il y a quelque chose de mauvais en moi, quelque chose de faux aussi. Et ce que j'espère sans l'avouer, c'est dégoûter Haru de moi, le dégoûter tellement qu'il s'en irait. C'est ce que mes vieux ont fait, mais moi, quand je suis parti, j'avais 16 ans passés, pas 5. C'est une sacrée différence. Haru, il ne partira pas, et ce n'est pas forcément qu'il n'en a pas envie, c'est juste qu'à cet âge-là, tu ne peux pas, c'est tout. Le pousser à bout, ce n'est pas seulement méchant, c'est indigne, et je voudrais qu'il arrête de pleurer. Je ne supporte pas qu'il pleure, c'est pas à cause de moi. Alors, quand la piste s'élargit, je ralentis le gros. J'attends que le môme soit à ma hauteur, je ne le regarde pas, je dis doucement, ça arrive, c'est pas grave, on s'en fout, tu sais.
La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêve déçu passé, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps. Et tout. Au bas, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. Un cœur à fleur de peau ne souffre pas, mon ami. Que l'on traduise en mots des soubresauts de jadis. Ça m'écorche la bouche. Me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours. J'ai passé l'heure au temps, me dire et sans détour. Au bal, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. La vie, le temps peut-être, serment déchu et l'air. Passé, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours. J'ai passé l'heure au temps, le dire et sans détour. Au bas, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. Les soubresauts de jadis, ça m'écorche la vie. glace les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours. J'ai passé l'heure autant le dire sans détour. Au bas, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour.
C'était un petit peu trash comme comme passage, hein.
On peut le dire.
Oui. Naturel.
Naturel.
Oui, une éducation naturelle. Voilà. Bien, je reviens au grenier de Vineuil. Alors que Coralie, dans la SIC, il y a le mot coopératif, hein, c'est ça. Donc j'imagine que le grenier de Vineuil porte un certain nombre de valeurs.
Tout à fait. En fait, l'objectif des greniers de Vineuil est de mettre en avant les savoir-faire des artistes, artisans et producteurs locaux, donc de notre région. Comme je vous le disais tout à l'heure, le modèle, c'était de vouloir consommer autrement en privilégiant le local et le circuit court. Et donc, et de mettre au centre les questions environnementales et de transition écologique. Et en fait, les fondateurs ou le conseil coopératif ont voulu créer un lieu d'échange, de partage et de lien social. Et pour ça, en fait, on a tout un système d'activités au grenier avec une mutualisation des espaces. Donc, au grenier de Vineuil, on a une boutique d'artisanat et d'artisanat d'art qui est tenue par Christelle.
Un resto et qui est actuellement ouverte.
Et qui est actuellement ouverte. Un bar et un restaurant où on accueille actuellement Carole Desnoux qui est traiteur depuis 15 ans à Huisseau sur Cosson et qui pour l'occasion de cette fin d'année a ouvert un restaurant éphémère au grenier de Vineuil et elle propose une cuisine végétarienne locale et bio et de saison. Donc tout à fait les valeurs des greniers et qui est ouvert du coup le mercredi, jeudi, vendredi midi et vendredi soir jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc autant en profiter.
C'est-à-dire incessamment. Là.
Ah ouais, exactement, exactement. On accueille aussi l'association Blogul qui fait la promotion des logiciels libres.
Logiciels libres, oui.
Tout à fait. Et au grenier, on a aussi des hébergements touristiques qui peuvent accueillir jusqu'à 14 personnes. Et on loue aussi des espaces de travail pour les professionnels, les associations et on a également un espace de coworking. Donc on a beaucoup d'activités au grenier.
Oui, c'est ce qu'on appelle en fait un tiers-lieu.
Tout à fait.
Et donc, pour animer ce tiers-lieu, les greniers de Vineuil proposent un certain nombre de, comment dire, oui, d'activités toute l'année.
Tout à fait. On est notamment un tiers-lieu culturel. Donc, on a plusieurs activités tout au long de l'année, notamment une galerie d'art, comme je vous le disais tout à l'heure, qui accueille une exposition tous les mois. Des concerts, donc on essaye de faire 10 concerts par an avec à peu près un concert tous les mois qui sont généralement le vendredi, samedi soir.
Les artistes sont souvent des artistes locaux, hein.
Alors c'est pas souvent, c'est exclusivement
des artistes locaux.
Exactement, des artistes de la région. Au début c'était un peu plus centré au département et puis on a décidé d'ouvrir un peu plus
oui,
à la région.
Oui, quand on dit locaux, ça veut dire de la région.
Tout à fait. On a également des spectacles de théâtre, donc on a accueilli la compagnie L'Intruse qui est hyper locale puisqu'elle est de
Vineuil. On peut pas faire plus local.
Ou le théâtre du Divan encore, on fait de la projection de films, par exemple au mois de novembre on a participé au mois du doc, on fait de la lecture de contes, des conférences sur la transition écologique, des ateliers écriture, cuir, des ateliers sur le bien-être. Et puis là, je me tourne vers Hervé, puisque on organise également des temps de rencontre et notamment une confrérie des voyageurs animée et organisée par Hervé, où des personnes viennent raconter leurs récits de voyage.
Décidé.
Donc, c'est très intéressant à chaque fois. Et puis, on a aussi des partenariats, par exemple, avec la ressourcerie Les Bonnes Manières de Blois. On organise des hyper cafés ou encore avec l'association Blois-Gul qui est dans les locaux des greniers, des ateliers informatiques ou jeux vidéo pour les plus jeunes. Voilà. Et au mois de décembre, est-ce que je peux vous partager la petite programmation de ce mois-ci?
Bien sûr.
Oui, on est là pour ça.
Parfait. Alors, je vous annonce déjà que du 2 au 31 décembre, on a l'exposition Le marché de l'art des greniers. Donc, c'est une vingtaine d'artistes, peintres, sculpteurs, photographes qui proposeront à la vente des petits formats. Donc, une superbe idée, cadeau de Noël artistique.
Ah oui.
Et puis, le samedi 17 et le dimanche 18 décembre, nous organisons un marché de Noël, donc un marché d'artisans et de producteurs. Donc, ça s'appelle Noël aux ateliers des greniers, donc qui est en partenariat avec les ateliers des greniers qui sont juste derrière les greniers de Vineuil, avec de la restauration sur place le jour de l'événement et des animations tout au long de la journée. Et je me permets de souligner deux animations qui sont en lien avec un peu l'émission, puisque ce sont des animations autour de livres. Par exemple, le samedi, il y aura une séance de dédicace avec le poète et auteur Thierry Lemoine. Et puis, le dimanche, il y aura également une séance de dédicace avec les illustrateurs Philippe Reich pour son livre La magie du soleil et Jaber pour son livre L'envol, qui sont parus chez la maison de micro-édition Un Poil Bleu. Donc, c'est une maison d'édition locale.
Locale,
très
locale aussi.
Donc, voilà.
Très locale, oui.
Donc, ce sera le dimanche.
Eh bien, merci Coralie pour toutes ces précisions sur les greniers de Vineuil où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, nous allons revenir au livre. Et je me tourne vers Catherine. Donc, après cette scène de pipi culotte, c'est quoi la suite là? Liam va quand même pas abandonner son enfant en pleine forêt.
Il a failli. Il a failli. Je vous rassure, il n'a que failli. Mais il s'en est fallu de peu. Je vous laisse découvrir cet événement, mais on ne va pas vous raconter le bouquin, ni même la scène finale. Alors, la scène finale, en fait, elle représente quasiment la moitié du bouquin. C'est
presque,
vraiment
oui,
une scène très poignante, haletante.
Dure.
Oui, dure, très dure. C'est vraiment le struggle for life avec son fils.
Donc, il faut vraiment lire le livre pour le savoir.
Ouais. Oui, non, c'est...
Je vois, Catherine, que tu en parles avec le poing fermé.
Oui, parce que quand même, pour s'en sortir vivant, il faut être costaud. Voilà. Bon. Alors, puisque le temps file, je vois ton regard, Dominique, un peu méchant.
Pas du tout. Pas du tout.
Alors, au lieu de lire, pour terminer la lecture, au lieu de choisir une scène d'action, nous avons sélectionné avec Hervé une scène située plutôt vers le milieu du roman, où l'on sent une sorte de paix intérieure gagner cet homme.
Tout doucement, j'inscris Haru dans mon existence. Je n'ai pas l'habitude de faire attention à quelqu'un. Quand je chasse, je suis en alerte permanente, mais ce n'est pas pareil. Là, il faut prendre soin d'un autre, et ça n'a rien à voir. Ava, c'était encore différent, c'était une adulte. Je découvre une vie qui n'a aucune cohérence, aucune logique pour moi, et je demande au môme de faire des petites choses. J'irai 10 fois plus vite si je m'en chargeais moi-même. C'est juste pour lui donner de l'importance. Parfois, j'en reste les bras ballants de le regarder ramasser des brindilles pour allumer le feu. Il n'a pas de méthode, pas de réflexion. Et je me dis, c'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. Ça me rend dingue d'attendre qu'il arrive à réaliser une tâche, même la plus ordinaire. Par exemple, hier, je l'ai envoyé chercher une conserve dans mes sacoches pour le repas. Près de la selle, il y avait un scarabée et il l'a observé et touché du doigt et suivi jusqu'à son trou. Et puis, il a oublié la conserve. Voilà, au bout de 5 minutes, je me suis levé pour aller voir. Alors, quand je lui ai dit d'abreuver les chevaux ou d'éteindre le feu au moment où on s'en va, c'est sûr que je passe derrière pour vérifier. À la maison, nous, on n'avait pas appris comme ça. C'est venu avec des baffes et des coups de trique. Tu ne fais pas bien, tu ramasses. Je ne dis pas que c'était la bonne tactique, mais il y a une chose certaine, c'est qu'on apprenait vite. Un de mes souvenirs, c'est mon frère, pas l'aîné, celui juste avant moi, quand on commençait à pêcher dans les rivières. Il a manqué son lancer et l'hameçon s'est pris dans son doigt sous la peau. Il n'y avait pas moyen de l'enlever, c'était moche. Il gueulait comme un âne, et on est tous retournés chez les parents. Et le père a regardé, il a dit « C'est toi qui as fait ça tout seul, comme un con ?» Mon frère a hoché la tête. Au lieu de le délivrer, le vieux, il a pris le fil au bout du leurre et il les a attachés dehors à la rambarde, mon frère et l'hameçon. Il a dit « Quand tu seras capable de te décrocher, tu pourras aller manger et aller dormir. » Et il ne parlait pas à l'hameçon, c'est sûr. Dans la nuit, j'ai entendu rentrer mon frère. Il s'était bien charcuté pour enlever le crochet. Je crois qu'il ne s'est plus jamais blessé à la pêche et c'est devenu le meilleur d'entre nous. Seulement, à part faire des souvenirs pas trop agréables et une cicatrice qui n'a jamais disparu, est-ce que ça valait vraiment le coup, franchement ? Parce que si ça se trouve, c'était de toute façon le plus doué et la punition du père n'y est pour rien. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'agir avec Haru de cette façon. Je m'impatiente et je m'énerve, et pourtant je ne vais pas lever la main sur lui. Ça me paraît insensé, comme quoi on ne reproduit pas toujours ce qu'on a vécu. Ça n'est qu'un môme. Il aura bientôt 6 ans, et à cet âge-là, on n'est pas prêt pour être un adulte. S'il perd du temps à regarder un papillon, quand je l'envoie chercher de l'eau, c'est qu'il est capable de poésie. Cette poésie, il la perdra bien assez vite tout seul. La vie s'en chargera et ce n'est pas la peine de l'engueuler. Je crois que j'accepte simplement que ce soit un gosse. Et ce n'est pas si facile quand soi-même on n'a pas eu d'enfance. On ne sait pas ce que c'est. C'est comme un canard ou un chien orphelin élevé par un humain. S'il n'a jamais entendu cancaner ou aboyer, eh bien il ne sait pas le faire. Au fond, on n'est pas mieux que les bêtes. Il nous faut une référence. On peut la répéter à l'infini ou la prendre à contre-pied, mais il y a un repère, c'est ça l'important. Qu'on fasse avec ou qu'on fasse contre, c'est autre chose. Moi, je le trouve émouvant, ce mioche, quand il réussit à enflammer la mousse pour que le feu parte et qu'il me regarde avec des yeux grands comme le ciel, il y a des étoiles dedans. Ça, c'est des moments où je ne demande rien de plus et c'est à ces moments-là qu'il faut faire attention parce que ce n'est pas vrai que ça suffit. Sur l'instant, on a l'impression que si. En vérité, on ne peut pas passer sa vie à regarder un gosse allumer un feu. Si on veut que ça marche, les places doivent être claires et d'accord, ce qu'il fait, c'est bien. Sauf que ça reste une petite chose. Alors, je hoche la tête pour l'encourager. Voilà, je ne vais pas me mettre à crier que c'est formidable. Hier, on a longé une rivière et même si on était toujours au nord, ça faisait des lumières que je n'avais jamais vues. Ce n'est pas qu'elles n'existaient pas avant, mais je ne les regardais pas. D'habitude, à cette saison, je piste, je traque, je chasse. Enfin, j'ai le nez sur les chemins et les traces des bêtes et peut-être que je suis passé à côté de tout ça. Je me dis, c'est immense ce que j'ai dû manquer. Et pourtant, du temps j'en prends quand j'écoute les loups et que je contemple le bleu de la nuit. Et quand je ne suis pas trop haut, je compte les petits éclats incandescents des vers luisants, comme si c'était des soleils à la fois précieux et dérisoires. C'est pour ce temps-là que je vais ici. C'est seulement que le monde est trop grand pour qu'on puisse tout voir. C'est aussi ce qui fait sa beauté. Et si je connaissais tout, il n'y aurait plus de surprise et je ne trouverais pas que la lumière qui donne à la rivière des reflets d'arc-en-ciel, cette lumière est comme une tour de magie devant moi. Et je dis à Haru, « Est-ce que tu vois ?» Et il dit oui. Alors je ferme les yeux et je n'entends plus que le pas des chevaux dans l'eau. Ça fait une fontaine, un ruisseau, le bruit d'un oiseau qui se baigne dans une flaque après la pluie. Je ferme les yeux et la sensation que j'ai est celle d'une légèreté inouïe. Et je réalise qu'il n'y a qu'avec Haru que je ressens ça. Avec Ava, il y avait cette force entre nous, cette attirance. On était ancrés l'un dans l'autre et ancrés dans le monde. Quand Haru court la montagne pour me retrouver, quand il chevauche à côté de moi ou qu'il me sourit, c'est le ciel qui nous enveloppe. Ça me rentre au fond de la poitrine et je sais que cet air-là n'existe pas vraiment. Enfin, ce n'est pas ce que je respire chaque jour. Celui-là a quelque chose de particulier, quelque chose qui me rend bon. Et je voudrais que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui me viennent, même si ce n'est pas moi qui le dis.
one fine morn, just after dawn, my love and I ride in. Dew on the trees, sun in the east, slipping and a sliding. Seems like we hardly knew ya. Seems good a time as any to believe in the land of plenty. With a broken heart and a crow in the yard, my love and I leave him. Down the road a ways, the hills ablaze, looking for reason. Goodbye to the old country. Seems like you hardly knew me. Seems good a time as any to believe in the land of plenty.
Bien, notre émission touche à sa fin. Nous allons remercier les greniers de Vineuil pour leur accueil. Nous allons remercier notre public nombreux. Je plaisante parce qu'il n'y a pas grand monde dans la salle.
Oui, mais il y a la qualité, exactement. C'est ce qui
tourne. Mais il y a la qualité.
Qualité d'écoute.
Voilà. Merci d'être venu nous écouter. Et, je crois d'ailleurs que nous reviendrons, n'est-ce pas Coralie ?
Oui, ce sera avec plaisir. On sera ravis d'accueillir à nouveau la Radio Studio ZEF.
Eh bien, nous serons très contents de revenir. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous pour l'accueil d'aujourd'hui. Merci à vous deux, Catherine et Hervé. Merci pour la lecture de ce livre qui a l'air tout à fait passionnant. Vous pouvez nous rappeler le titre ?
Alors, On était des loups de Sandrine Colette, publié en 2022 aux éditions Jean-Claude Lattès. Et par provocation, je montre la couverture, n'est-ce pas, à la radio. Pour le public.
Voilà. Eh bien, au revoir. Au revoir Hervé, au revoir Catherine.
Au revoir.
Au revoir. Amis auditrices et auditeurs. Je vous dis au revoir aussi en vous rappelant que vous pouvez écouter cette émission en podcast sur le site de Studio ZEF. StudioZEF.fr, 91.1 sur les ondes. Cette émission est enregistrée mensuellement et rediffusée tous les vendredis à 14h.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.